LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Quand je prends une petite image, est-ce que je la lise, elle devient un peu plus froide et alors ça fait un peu comme un doudou.
Moi, j'aime bien mes cheveux parce que dès qu'il fait froid, dès qu'on les a pas encore coupés avant l'été, ils me protègent du froid comme un cache-cou. Dès que je l'oublie, dès que je les brosse et tout, ils sont tous lisses collés ici et ça me fait chaud.
Moi, j'aime bien mes cheveux parce que déjà, quand je prends mon bain, ça protège mon corps.
Si je mets des extensions, par exemple, ça tient chaud comme coiffure un peu.
Vous avez cette ligne cheveux.
D'accord.
Avec la personne qui est de cheveux toute la semaine. Hein.
Les cheveux en 4, épisode 4.
Ça, c'est l'endroit où sont stockés nos dossiers.
La grande perte.
Alors, il y a en fait le dossier cheveux avec les CD. La mèche de cheveux. Elle...
Claudia Prolongeau. Clémence Gross.
En gros, on a différentes phases. Hein. Ça, c'est quand elles ont déjà été traitées. Voilà. Je vais vous montrer tout le processus dans la pièce. Hein, mais là, c'est tous les dossiers qui sont en cours là, actuellement. Tous ces dossiers-là, c'est que des dossiers en cours d'analyse. Hein. Et la pièce dédiée. Moi, je suis expert en toxicologie. Donc, je travaille en police scientifique depuis 1999. Hein. Je suis responsable de la division chimie maintenant du laboratoire de police scientifique de Paris. Hein. La division chimie regroupe la section toxicologie médico-légale pour laquelle on fait les analyses de cheveux, hein. Mais il y a également la section de toxicologie sécurité routière, hein. La section stupéfiants, hein, donc avec laquelle on travaille beaucoup en relation toxicologie, parce qu'eux, ils vont travailler sur les produits bruts. Hein. Et après, il y a la section chimie microtrace. Hein. Eux vont plutôt analyser tout ce qu'on ne fait pas dans les autres sections. Ils peuvent faire des analyses de vêtements, de fibres, de peintures, de produits chimiques qui sont type acide, hein, qui sont ni produits stupéfiants, ni médicaments. Et ils ne travaillent pas sur les matrices biologiques. Je vais vous montrer comment on procède. Au rez-de-chaussée, on a une salle de prélèvement, en fait, où on reçoit les victimes. Et contrairement à l'ADN, nous, c'est une mèche de cheveux qu'on va prélever. Donc, on se met toujours à l'arrière du crâne, dans cette zone-là. Il nous faut les cheveux, en fait, en tant que mémoire. Hein. Mais il ne nous faut surtout pas le bulbe, parce que le bulbe, en fait, va être imprégné des substances qui sont dans le corps. Hein. Il va être imprégné du sébum, des glandes sébacées, du sang. Et du coup, il ne nous faut surtout pas le bulbe. Hein. Ça, parce que ça va contaminer le cheveu. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une mémoire à long terme. Hein, en fait. Ce qui va se passer dans une mèche de cheveux, hein, c'est qu'on absorbe une substance. Hein. Au bout de quelques jours, elle va apparaître à la base du cuir chevelu. Et à partir de ce moment-là, elle va migrer centimètre par centimètre au fur et à mesure où votre cheveu va pousser. Et du coup, par exemple, quand on a une substance qui est à 3,5 cm de la racine, ça fera 3 mois et demi à peu près que vous l'aurez absorbée. Et si on a le bulbe, ça peut fausser parce que le bulbe, lui, est très chargé. Il faut savoir que les substances qui sont présentes dans le cheveu, elles sont 1000 fois moins concentrées que dans le sang. Dans le sang, on parle de microgrammes par litre. Hein, c'est un morceau de sucre dissous dans une piscine olympique, par exemple. Dans les cheveux, on est sur du picogramme. C'est un grain de sel dans une piscine olympique. Donc en fait, le vertex postérieur, c'est ce qu'on a à l'arrière du crâne. On prend entre la nuque et le dessus du crâne, c'est au milieu. Alors c'est là que la pousse des cheveux est la plus stable dans le temps chez la personne. Enfin, vous le voyez un peu au quotidien, hein, quand vous avez une frange où les cheveux poussent beaucoup plus vite là, et ils vont pousser moins vite à l'arrière. Et le deuxième gros avantage, c'est comme on prend une mèche de cheveux, ça va faire un petit trou en fait. Et que là, les victimes, si elles ont les cheveux lâchés, ça se voit pas. Si elles les attachent, ça se voit pas non plus. Ça reste complètement discret, en fait, pour la victime, et c'est pas traumatisant. Alors, c'est essentiellement les victimes de soumission chimique, hein, vulnérabilité chimique. C'est dans la majorité des cas qu'on a, c'est des jeunes femmes ou même des jeunes hommes, hein, qui ont perdu la mémoire, en fait, qui soit se sont fait une agression sexuelle, soit du vol dans leur appartement, hein, et qui perdent complètement la mémoire et qui n'y ont jamais porté plainte parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Hein, et ils ont des souvenirs qui leur reviennent sous forme de flash, hein, une semaine, 15 jours plus tard. Ils en parlent à leur entourage et à un moment donné, on va leur dire faut aller porter plainte, ou alors il y a eu plusieurs victimes. Ça peut être un faisceau d'indices qui fait que Elle se dit qu'il va falloir aller porter plainte, mais on est dans un délai trop tard, en fait, pour avoir du sang, de l'urine et même de l'ADN, si c'est dans un cas de viol. Donc il va rester en fait les cheveux, qui, si la victime pense avoir été droguée, puisqu'elle a perdu la mémoire, vont eux avoir gardé la mémoire de ce qui s'est passé, et vont l'emprisonner en fait. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est, comme je vous ai dit, ça apparaît à base du cuir chevelu au bout de 10 jours. Après, il faut qu'on attende 6 à 8 semaines que c'est progressé. Ça veut dire que si on est en délai entre les deux, on ne peut plus travailler dans l'urgence parce qu'il faut qu'on attende que les cheveux poussent. Et les cheveux, faut être patient. Et du coup, on est obligé de faire ces hypothèses de pouce pour retrouver une date d'effet. Parce qu'on ne va jamais pouvoir dire c'était tel jour que la personne était droguée, mais plutôt sur une période. Alors nous, on peut trouver la majorité des substances utilisées en soumission chimique. Les somnifères ou les types de drogues comme le GHB se retrouvent dans les cheveux. Ils peuvent être utilisés aussi en post-mortem. On peut utiliser des cheveux quand il ne reste que ça, sur des intoxications, par exemple des corps qui sont retrouvés à l'état de squelette. Les cheveux restent, en fait. Quand vous voyez, souvent on voit des squelettes, mais il y a les cheveux. Eux, ils ont gardé effectivement aussi la mémoire en fait, de ce qui a été consommé. Alors là, ça va être plus compliqué. On ne pourra pas faire un historique, parce que forcément, quand la personne est morte, ça a diffusé le long du cheveu, donc on ne va pas faire un historique, mais on va pouvoir savoir ce qu'elle a absorbé, en tout cas. Un titre d'exemple, ça a été analysé dans ce laboratoire, c'est les cheveux de Napoléon. C'était une bataille d'experts, donc je ne vais pas y prendre part. C'est une bataille d'experts. S'il était empoisonné à l'arsenic ou pas par les Anglais, mais en gros, il y a des cheveux qui étaient récoltés par des historiens. Et c'est vrai que ce qui était demandé, c'était d'analyser est-ce qu'il y a de l'arsenic dans ce cheveu de Napoléon, est-ce qu'on peut trouver des traces d'arsenic.
On a une réponse.
Ils sont toujours en bataille d'experts, donc on fait toujours les analyses, en principe, un an, c'est le grand maximum. Dans l'idéal, c'est inférieur à 6 mois, 6 à 9 mois pour trouver une prise unique. Parce qu'à chaque fois que la personne va se laver les cheveux, on va éliminer 0,1% de la substance, en fait. Et quand on est sur une prise unique, quand on lave, on... Et après, par contre, la mémoire sur du post-mortem, elle est infinie, parce que on a retrouvé de la cocaïne chez des momies, donc des momies incas dans les cheveux. Les substances, en fait, vont beaucoup plus s'incorporer dans les cheveux foncés. Donc, c'est-à-dire que si on a les cheveux blancs, ça s'incorpore très peu. Les cheveux blonds, pas beaucoup. Et plus ils vont être bruns, et des cheveux noirs, ça s'incorpore parfaitement bien. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont interdit en fait la détection de cocaïne dans les cheveux, parce que forcément, les Afro-Américains avaient des teneurs très supérieures aux autres classes. Et du coup, nous, on a quand même des seuils de positivité si on a quelqu'un à cocaïne, mais il faut rester prudent. Il faut toujours rester prudent sur les doses qu'on trouve dans les cheveux, en fait. C'est important pour une victime, quand elle a perdu la mémoire, qu'on fasse l'analyse de cheveux et lui dire oui, effectivement, elle a été droguée et du coup, rien n'était de sa faute parce que, même si elle n'avait pas été droguée, c'était pas de sa faute, mais elle a été droguée et ça explique en fait ses pertes de mémoire. Alors ça, une fois qu'on va couper, en fait, on va les broyer, on va faire de la poudre de cheveux. En gros, de la poudre de cheveux, donc ça, c'est un broyeur à cheveux et ça, c'est un petit flacon en fait avec, vous allez entendre, c'est des billes de céramique. Et les billes de céramique, en fait, quand on va les passer dans le broyeur qui va s'agiter très très vite, en fait, elles vont broyer complètement le cheveu et faire de la poudre très fine de cheveux. Et après la poudre fine de cheveux, on va mettre un produit chimique dedans qui va libérer, qui va casser tous les brins, parce que en fait, le cheveu à l'intérieur, c'est des structures et des liaisons chimiques. Et le produit qu'on va mettre va casser toutes les liaisons chimiques et libérer la substance. La substance, après c'est par des jeux d'extraction, c'est-à-dire on va mettre des solvants aqueux et organiques, on va faire vraiment des extractions chimiques pour récupérer la substance et la concentrer au maximum. Nous, notre but, c'est de la récupérer et de l'avoir dans le minimum de volume pour avoir une concentration maximum de cette substance.
Vous êtes ici au sein du centre de santé Sabreau.
Pascal Régagne, dermatologue.
C'est un centre de santé qui est spécialisé dans la pathologie du cheveu et du cuir chevelu. Alors le centre de santé Sabreau est dans le 10e arrondissement à Paris. On est presque une quarantaine de dermatologues à travailler ici à temps partiel. On est souvent dans des cabinets le reste du temps. Et on est vraiment un centre thématisé et reconnu au niveau national et même au niveau international pour notre expertise sur les pathologies du cuir chevelu, sur les chutes de cheveux en général, et puis beaucoup également sur des maladies rares et des maladies orphelines qui font toute notre existence. Et on a également une activité de recherche importante puisqu'on teste très régulièrement des nouvelles molécules pour l'industrie cosmétique ou pour l'industrie pharmaceutique, pour des chutes de cheveux classiques ou pour des maladies un petit peu plus compliquées comme des psoriasis du cuir chevelu, des pelades ou d'autres types d'alopécie cicatricielle qui sont plutôt à ce moment-là des maladies orphelines.
Donc nous allons commencer la consultation. Je vous ai vu déjà une fois et nous avions conclu de vous revoir aujourd'hui.
Sylviane Bertolus,
oui,
dermatologue et psychologue.
Donc vous avez été adressée par un médecin de ville, un dermatologue.
Oui.
Parce que votre pelade avait déjà commencé et elle a commencé à vous traiter. Vous pouvez me rappeler pourquoi elle vous a adressé, pourquoi vous êtes venue ici dans cette consultation de dermatologie psychosomatique?
Alors le docteur m'a adressée au centre Saburo parce que la pelade malheureusement ne voulait plus s'arrêter. Mmh. Elle s'était pas mal étendue. Mmh. Et du coup, elle m'a adressée vers vous car elle savait qu'elle n'avait plus d'autres moyens. Mm-hmm. On avait atteint le nombre maximal d'injections de kénacorte.
D'accord. Et ça avait repoussé un peu, non, avec le kénacorte?
La plaque la plus grosse avait pas mal repoussé, mais par contre, celle qui est frontale est restée assez étendue.
Oui, c'est ça. C'est juste à la bordure,
oui,
là, la plus gênante.
Oui, c'est ça.
C'était en mai 2023.
Ah. Oui, c'est ça. J'ai eu un stress assez conséquent et du coup, je me suis réveillée le matin avec un trou dans la tête. Donc au début, je pensais qu'on m'avait coupé les cheveux dans la nuit et puis...
Ah oui.
Et puis en fait, pas du tout, j'ai retrouvé une mèche dans mon lit.
Ah oui.
Et...
Oui. Merci madame, merci beaucoup. Ça, c'est le résultat du trichogramme. On va en reparler après.
Et en fait, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que c'était une pelade. Donc, mm-hmm, au début, j'ai eu une corticothérapie,
oui, c'est ça,
par gel. Ouais. Et puis, ce qui était de la taille d'une pièce de 20 centimes s'est transformé en deux pièces de 2 euros. J'ai eu très, très peur. Donc, ah, on, ouais, a commencé les injections de kénacorte pour freiner.
Ouais.
Et puis je suis plutôt contente pour celle de derrière qui était vraiment très très étendue.
Avec les injections, ça a été efficace.
Oui, avec les injections, mais celle de devant, pour le coup, on n'a pas. Enfin, elle est petite, c'est de la taille d'une pièce de 2 centimes, mais les cheveux n'ont pas repoussé.
Mmh. Mmh. Oui, donc quand on regarde, on voit qu'il reste une petite. Là, une petite plaque là. Oui, oui. Elle est petite, hein, elle mesure, oui, 5 mm à peu près. Hein. Et surtout, on ne voit pas de cheveux peladiques.
Oui.
C'est ça qui est important, parce que s'il n'y a pas de cheveux peladiques au dermatoscope, ça veut dire qu'il n'y a pas de, on voit pas une extension. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment une repousse quasi complète, quoi. Sauf cette petite
plaque.
Cette plaque, ouais.
Donc j'essaye de la masquer comme je peux.
Oui.
En mettant les cheveux d'un côté et de l'autre.
Mais c'est formidable parce que quand même, je vous avais donné aucun traitement.
Oui.
On avait dit qu'on allait revoir les choses pour bien être sûr que au niveau frontal, il n'y avait pas une petite maladie associée, une AAG. Donc vous avez fait un trichogramme, ce qui ne se fait pas dans la pelade. Hein. D'habitude, comme vous avez fait, on fait le diagnostic comme ça, comme ça se voit. Et puis finalement, il n'y a pratiquement qu'une petite AAG juste au front, comme ça, c'est-à-dire une petite alopécie androgénogénétique. C'est une petite maladie qui arrive très progressivement. Et chez vous, elle est très peu importante, donc voilà, elle est stable, elle n'évolue pas. C'est vraiment que la pelade qui est un problème chez vous.
C'est ça. C'est vrai qu'à la sortie de la première consultation que j'ai eue avec vous, j'ai décidé d'arrêter tout traitement. Donc à la fois le fer qui me rendait très malade, le gel que j'oubliais un jour sur deux quand je rentre très tard du boulot. Et surtout, tous les compléments alimentaires qui me donnaient pas mal de maux de ventre. Mmh. Donc du coup, j'ai décidé de tout arrêter et de faire un travail d'acceptation. Mmh. C'est peut-être très gênant pour une femme, surtout avec les cheveux que j'ai, parce que je ne cache pas que j'ai de très beaux cheveux. Mmh. Et de les voir dans la salle de bain, ça fait mal. Mmh. Mais je me dis que face à une vraie maladie, comme une sclérose en plaques ou un cancer, bah, il fallait peut-être que je prenne du recul et que je décide de m'accepter. C'est un travail à faire, en fait, avec soi-même. Et en fait, j'ai constaté que j'avais de moins en moins de cheveux qui tombaient dans la salle de bain. Donc c'est plutôt rassurant. Mmh. C'est plutôt rassurant.
Oui, la dernière fois, on avait parlé un petit peu de ce qui s'était passé autour de la survenue de cette pelade. Vous aviez pu parler quand même d'un stress, enfin de ce qui arrivait autour de vous,
oui,
qui était assez difficile à assumer,
oui,
effectivement, et qui vous avait quand même entraîné dans une souffrance importante.
Exactement, dans quelque part une souffrance et aussi un instinct de survie, et pas le mien, celui de mon fils, qui a eu une tumeur à l'œil. Et du coup, ça a été très très compliqué de se dire que, ben, à tout moment, je pouvais perdre mon fils.
Et, vous l'avez ressenti ?
Je l'ai ressenti. C'est vrai que quand j'ai vu mon dermatologue de ville, ça a été clair. Elle m'a dit, qu'est-ce qui a pu déclencher ça ? Et je lui ai dit, le fait qu'on m'a annoncé que mon fils avait une tumeur à l'œil et qu'il fallait qu'il soit opéré assez rapidement. Dans ma tête, ça a beaucoup travaillé et ça n'a pas loupé. 4 jours plus tard, j'avais un trou dans la tête. Donc, pour moi, c'est automatiquement ça.
Ah oui.
Mais c'est vrai que les cheveux, ça m'a mis un coup au moral parce que je me suis dit... c'est vrai que quand je rentre dans une pièce, la première chose qu'on remarque, c'est mes cheveux.
Oui.
Et le fait de les perdre, ça a été très, très compliqué. Je m'étais rapprochée de certaines structures pour des perruques. Et puis, j'ai mon ami qui m'a dit, mais non, enfin, tu les as pas encore tous perdus. Attends, relativise, prends le temps. Prends le temps de les perdre avant de chercher une solution.
Mais c'est ça qui est angoissant dans cette maladie, qui est terrible, c'est que l'évolution, on ne la connaît pas. Et
exactement.
Nous, on n'a pas de prise de sang avec un marqueur qui permettrait de vous annoncer comment ça va évoluer. Et souvent, on se projette dans le négatif, quoi.
Et puis, mais j'ai toujours gardé de très beaux cheveux, j'ai toujours eu de très beaux compliments. Et c'est vrai qu'il y a à peu près un mois, j'ai revu une amie qui m'a dit, mais t'as pas mal perdu de masse quand même. Hein. Et je lui ai dit, ouais, c'est la vie. J'ai appris à pas trop m'étendre dessus.
Ouais.
Pour pas, en fait, revivre à chaque fois, entre guillemets, cette douleur, et je passe à autre chose.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez une pelade qui a eu deux temps, je dirais. Il y a eu un temps où il a fallu des injections. Les injections, ça fait repousser les cheveux, avec un peu de retard, mais ça fait pousser les cheveux, ce qui a commencé à se faire. Et puis au niveau du front, c'était plus compliqué, c'est là où vous êtes venue.
Oui.
Et... c'était un peu compliqué de savoir si c'était mêlé à une autre maladie ou non. Bon, ça n'a été que la pelade. Le résultat du trichotome est parfait. Et il n'y a plus de pelade, sauf un petit de 5 mm qui n'est pas évolutif. Donc, cette pelade, depuis la dernière fois, elle a repoussé spontanément. Parce qu'il y a des pelades qui repoussent spontanément. Personne, si vous voulez, ne peut comprendre exactement les facteurs qui déclenchent ces maladies auto-immunes. Moi, je travaille sur le fait qu'on est un être humain dans son unicité et que donc tout ce qu'on vit affectivement dans les relations, ça peut engendrer aussi des désordres immunitaires, mais c'est un des facteurs. Vous savez, je vous avais demandé les facteurs génétiques, il n'y en a pas. Je vous avais demandé d'autres facteurs, mais on ne peut pas... savoir exactement les causes des pelades. Voilà. C'est multifactoriel. Voilà. C'est comme ça. Bon, écoutez, vous
merci
allez prendre rendez-vous alors dans... entre 2 et 3 mois.
Oui, très bien.
D'accord.
Oui.
Bon.
Merci beaucoup, docteur.
De rien. continuez comme ça. Continuez comme ça. Voilà. Je vais vous parler quand même de la pelade, parce que cette patiente, elle a vécu les choses comme ça. C'est très important ce que les femmes ou les hommes vivent subjectivement. Dans cette consultation, c'est un peu ça que nous développons. Que la personne puisse s'exprimer sur sa souffrance. Mais quant à la pelade, elle était assez informée, puisque c'est effectivement une maladie auto-immune qui donne des maladies inflammatoires chronique qui évolue par poussée et rémission. C'est pour ça que la pelade, il y a des personnes qui font qu'un épisode, enfant, ils font une plaque de pelade, et c'est tout. C'est très bizarre finalement, parce qu'elle ne touche qu'un organe, elle ne touche que les racines des cheveux. Et en plus, pour vous montrer, moi je trouve ça incroyable et merveilleux, je suis toujours étonnée, elle ne touche que les cellules pigmentées des cheveux. Donc, elle ne touche pas les cheveux blancs. C'est pour ça qu'on dit que Marie-Antoinette, quand elle a été incarcérée à la conciergerie, tous ses cheveux ont blanchi. C'est un peu la croyance populaire que quand on a du stress, on blanchit. Ben, c'est pas du tout ça qui s'est passé pour Marie-Antoinette. Elle a eu une pelade. Elle était poivre et sel avant d'entrer à la conciergerie et tous ses cheveux pigmentés sont tombés. Elle a fait une pelade. Donc, ces maladies auto-immunes, qu'est-ce que c'est? On a des cellules immunitaires pour éliminer les microbes. Et on a aussi une immunité qui reconnaît nos cellules. Ça s'appelle la tolérance immunitaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trouble de cette reconnaissance immunitaire. Pour la pelade, ce sont ces cellules de la racine qui forment le cheveu, qui sont reconnues comme étrangers, le système immunitaire ne sait plus très bien si c'est à soi ou pas à soi. C'est un trouble de la reconnaissance du soi. Et dans la pelade, la cellule n'est pas détruite, la racine n'est pas détruite. Et tout ça peut être très brutal. C'est ça qui est un peu aussi très étrange dans la pelade, c'est que on peut perdre ses cheveux en une nuit, enfin par plaque ou même... C'est plus rare quand c'est tous ses cheveux, mais ça, en quelques semaines, en quelques jours, c'est brutal. Et la restitution, c'est-à-dire la repousse, parce que les cellules maintenant reconnaissent ses racines, elle est aussi assez rapide, elle peut être rapide, mais la pousse du cheveu, évidemment, elle est longue. Après, le cheveu doit repousser. Voilà. Donc les pelades, il y a beaucoup de souffrance, évidemment, il y a un retentissement psychologique très important. C'est une maladie qui altère la qualité de vie. C'est une maladie qui, vraiment, quand on se voit dans le miroir le matin avec pas ses cheveux, c'est angoissant. Et puis surtout que, comme je l'ai dit à la patiente, il n'y a pas de quoi surveiller la maladie. Et on ne peut pas prédire si la personne, ça va s'agrandir, les plaques, ou au contraire, comme elle, ça va guérir. La première partie, c'était avec du Kenacor. La deuxième partie, c'est presque spontané. Vous voyez ? Parce qu'il y a plusieurs formes de pelade. Il y a des formes en plaques, comme elle avait. Il y a des formes universelles, c'est-à-dire que tous les cheveux tombent et les poils aussi. Les ongles aussi peuvent être atteints. Et il y a des formes, la pelade totale, alors là c'est que les cheveux, pas les poils qui tombent. Et puis il y a des pelades aussi ophiasiques, c'est-à-dire que c'est tout le contour de la tête. Vous voyez, ça part en bas de l'occiput, là ça remonte et ça fait comme une couronne. Et ça a un moins bon pronostic, disons. Voilà. Moi, je suis dermatologue et psychothérapeute, donc ça me permet d'avoir quand même une distance par rapport à des vulgarisations entre la psychologie et la maladie. Pour cette patiente, il y a, comme d'autres patientes, il y a quand même un facteur psychologique qui paraît important, mais il faut bien comprendre que la maladie pelade n'est pas une maladie psychologique. C'est-à-dire que les maladies psychologiques, c'est des maladies qui sont souvent d'origine hystérique, mais pas toutes, mais qui donnent des symptômes dont l'origine est psychologique, où en général il n'y a pas une atteinte du corps organique, il n'y a pas une lésion organique. Et donc effectivement, c'est réversible avec une psychothérapie, avec une prise en charge psychologique. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est une maladie où on peut avoir dans tous les facteurs un facteur de déclenchement qui serait une cause psychologique. Mais il y a une lésion, il n'y a pas que la psychologie. Il y a la génétique, le trouble immunitaire, il y a une lésion et on ne sait pas du tout si ça va être réversible, même si le choc traumatique a pu être déclencheur. Dans cette consultation, je travaille comme ça. Je ne cherche pas à chercher une cause psychologique aux maladies. Je cherche à prendre la personne dans son unicité parce que je pense que tout est lié. Voilà. Je pense que tout est lié. On a montré qu'il y a quand même des situations comme un deuil qui peut modifier l'immunité, qui diminue l'immunité. C'est prouvé. C'est prouvé que certains chocs ou ruptures comme ça relationnelles peuvent modifier l'immunité. Mais ce n'est pas la seule cause, vous comprenez ? C'est ça que je veux dire.
Chaque cheveu suit un cycle de vie qui se découpe en trois phases, distinctes et successives. La phase anagène est la phase de croissance du cheveu. Elle dure entre 2 et 5 ans en moyenne et est plus courte en général chez l'homme que chez la femme. Le cheveu naît dans le follicule pileux et croît d'environ 1 mm tous les 3 jours, soit 12 à 15 cm par an. À chaque instant du cycle pilaire, à peu près 80% des cheveux présents sur nos têtes sont en phase anagène.
Ce qu'il faut dire, c'est que les cheveux, c'est un matériel mort, c'est de la kératine, c'est pas innervé, c'est pas vascularisé. Donc évidemment, quand on les coupe, ça fait pas mal. Quand on les arrache, ça fait mal parce que la racine, elle est innervée.
La phase catagène est la phase de repos. Elle dure seulement 2 à 3 semaines. Pendant cette période, la pousse des cheveux est très ralentie, voire complètement stoppée. Environ 3% de nos cheveux se trouvent au même moment dans la phase catagène.
Tous les follicules pileux ne sont pas synchrones. Chaque follicule pileux est dans un temps du cycle pilaire différent, si bien qu'on a toujours des cheveux. Voilà. Et par contre, chez les animaux, quand ils muent, eux, ils sont tous synchrones, les follicules, les racines.
La phase télogène, la dernière phase, est celle qui aboutit à la mort, puis à la chute du cheveu. Elle dure environ 3 mois. Poussé par un nouveau bulbe pileux en développement, le cheveu se détache du follicule. À peu près 15% de nos cheveux sont en phase télogène en même temps. Ce schéma se répète environ 25 fois durant la vie. On estime que les cheveux sont capables de pousser de 100 à 125 ans et que chaque personne dispose d'un patrimoine capillaire de plus de 100 000 cheveux.
Moi, c'est Jessica, je suis infirmière depuis 2 ans à Gustave Roussy et j'ai les cheveux noirs ondulés et tout le temps attachés.
Je suis Ophélie, infirmière depuis 7 ans à Gustave Roussy. J'ai les cheveux fins et bouclés et tout le temps attachés pour le travail du coup.
Oui. On va où alors là ?
Du coup, il y a des patients dans 2 chambres. Donc je vous laisse faire, vous me prévenez quand c'est fini, je vous accompagnerai pour la suite.
Super, formidable, voir le coiffeur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne rencontre.
Merci.
Je pensais que ça allait pas me perturber tant que ça, mais c'est vrai que la première fois que je me suis retrouvée sans cheveux et sans sourcils, surtout, ça m'a un peu perturbée par rapport au regard des autres, parce qu'à la maison, comme je sais, la première fois c'est tombé en pleine canicule, donc j'avais très chaud sous la perruque, et donc j'ai dû enlever cette perruque devant mes enfants et mes petits-enfants, et ils l'ont mal supporté, quoi, de me voir. Alors que c'est vrai que nous on se voit pas, on se voit dans le regard des autres, quoi. J'ai 70 ans, j'ai fait 70 ans là, et demi, disons. Voilà, donc ça fait 5 ans que j'ai appris que j'avais un cancer. Et donc j'ai perdu 3 fois mes cheveux. Parce que j'ai un produit qui s'appelle le Taxol, où il y a justement effectivement une perte de cheveux, c'est une des conséquences de ce traitement. Donc perte de cheveux et atteinte des ongles, qui sont les fanères aussi, donc qui sont comme les cheveux. J'ai eu 3 épisodes de reprise de ce Taxol-là. Donc, un épisode, après, j'ai arrêté. Donc, les cheveux ont poussé, donc par 2 fois. Et là, depuis 15 mois, donc je suis sous Taxol. Et ils ont poussé quand même sous Taxol. C'est-à-dire qu'ils sont moins beaux, quoi, moins fournis, mais ils ont repoussé. Bon, j'ai eu la période, si vous voulez, à peu près de 6 mois où j'étais vraiment sans cheveux, quoi. Et là, c'était l'hiver, donc je me suis acheté tout un tas de bonnets et tout. Voilà. Les premières fois, ils ont repoussé blancs. J'avais moins de cheveux blancs que maintenant, et donc frisés, alors que j'avais des cheveux ondulés. Donc j'ai récupéré la couleur et la texture aussi. Ça, c'est les deux fois. Et là, sous Taxol, ça a repoussé, mais à peu près de la même, la même texture que ceux que j'avais avant, mais beaucoup moins fourni. Et le fait de perdre les cheveux, ça m'a pas... je m'en foutais un peu. Voilà. Je dis, ça repousse les cheveux, c'est ça. Comme quand on fait des fois une coupe chez le coiffeur, ça repousse. Même si c'est raté, ça repousse. Voilà.
C'est intéressant parce que j'ai écouté la dame parler. Et en fait, j'ai pas du tout le même point de vue. Donc c'est marrant, on peut avoir... on peut réagir différemment, quoi. On n'est pas toutes pareilles, quoi. Les cheveux, c'est comme les seins, c'est la féminité. Une femme sans cheveux, pour moi, c'est pas une femme. C'est violent, mais pour moi, voilà, quoi. J'ai 58 ans. J'ai appris en juillet que j'avais un cancer. J'ai été pris en charge assez rapidement. Et on m'a assez dit rapidement que j'allais perdre mes cheveux pendant la chimiothérapie. Donc je m'étais préparée à ça. Je m'étais préparée aussi à la mastectomie, parce qu'on m'a retiré aussi un sein. Et moi, les cheveux, c'était important. Ancienne coiffeuse, en plus. Même si j'avais les cheveux courts, pour moi, c'était important. Et la perte de cheveux, je dirais, m'a presque plus choquée que la perte de mon sein. La première fois que je me suis regardée dans la glace, que je me suis retrouvée chauve, ça a été violent pour moi, en fait. Et... honnêtement, j'en ai pleuré, voilà. Comme disait la dame, ça dépend vraiment des gens. Pour elle, c'est pas important. Pour moi, ça l'était énormément, quoi. Donc, on m'avait dit de carrément raser la tête pour que, pas avoir, enfin, voilà, que ça soit uniforme. J'ai hésité plusieurs fois. Je suis passée devant chez le coiffeur. J'y allais, je me rase la tête, je le fais moi-même et tout. Le coiffeur, j'ai été le voir, il voulait pas le faire, il avait mal au cœur. Franchement, il était adorable, il m'a répondu, mais attendez que ça tombe tout seul. J'ai dit oui, mais ça va tomber par endroits, ça va pas. Et puis après, j'ai pris la tondeuse et je les ai rasés. Puis après, très vite, je me suis retrouvée vraiment très chauve, quoi. Plus rien, quoi. Après, c'est posé la question, perruque ou accessoire. Et je sais pas, dans ma tête, perruque, c'était pas possible. Je me suis dit, je vais prendre des accessoires. Donc, à l'hôpital, là, je suis allée chez la coiffeuse et puis j'ai demandé des accessoires. Donc, ces espèces de bonnets avec des accessoires qu'on met dessus, tout. Donc, j'ai préféré ça. Et puis là, avec le recul, j'ai vu les perruques qu'ils font maintenant, parce qu'ils font quand même des belles choses maintenant. Et je me suis dit, bon, j'aurais peut-être dû prendre une perruque, en fait. La perte de cheveux, je l'assume totalement en milieu hospitalier, mais à l'extérieur, non, bien sûr. À l'extérieur, même vis-à-vis de la famille, c'est difficile. Des petits-enfants, comme on disait, quand je reçois mes petits-enfants, je cache. J'ai pas envie de leur faire peur. Quand les cheveux vont repousser, déjà, je vais avoir une autre image de moi. Et puis, dans ma tête, ça va être comme la guérison approche, quoi. Voilà, pour moi, c'est important.
Vous voulez peut-être que je vous montre les casques ?
Normalement, il y avait le casque. J'ai essayé et malheureusement, comme beaucoup de personnes, je n'ai pas trop supporté, moi. C'est-à-dire qu'au bout de 5-10 minutes, en plus c'est l'hiver, là il fait froid, c'est glacé, vous êtes dans la glace. Donc les pieds, toutes les extrémités, le cuir chevelu, et je n'ai pas très bien supporté.
On a deux congélateurs, du coup, pour stocker un petit peu tout ça avec donc les types de chimiothérapie et les alopécies donc fréquentes, possibles ou pas d'alopécie. Donc, vous voyez, il y a des traitements au final qui n'induisent pas d'alopécie. Et avec ça, en termes de casque, vous voyez, ils sont très froids. Et on a des choses comme ça. Dans l'idéal, c'est pas forcément possible, mais c'est bien de le mettre un petit peu avant de commencer la chimiothérapie. Donc ça prend toute la tête. Donc on demande à la patiente de mettre un petit bonnet en tissu avant. On le met et on essaye de le changer, si possible, toutes les 20 à 30 minutes. Après, honnêtement, parfois, il est quand même très très froid. Juste avec une charlotte, mettre ça sur un crâne nu, c'est quand même pas simple.
C'est un bonnet qui est bleu, donc avec des scratchs qu'on met autour du cou pour qu'il tienne bien. Et donc du gel à l'intérieur, donc on met au congélateur hein, tous les soirs, enfin ou dès que c'est terminé. Et voilà, ça reste frais assez longtemps. Le casque réfrigéré à proposer, donc selon les protocoles de chimiothérapie, pas pour tous les traitements, que ça soit pour des chimios donc du coup qui sont hautement alopéciantes ou moyennement. Donc le but c'est de protéger un petit peu le cuir chevelu pendant le passage de la chimiothérapie. Quand les chimios sont hautement alopéciantes, on a tendance à avoir des remarques de patients justement qui lisent un petit peu sur les forums, qui disent de toute façon les cheveux vont tomber donc ça ne sert à rien de mettre le casque. Nous on déconstruit un petit peu tout ça parce qu'on précise que le but c'est bien de favoriser la repousse par la suite. Et pour le coup, avec ça, on donne aussi des conseils basiques, donc utiliser le shampoing doux. Une fois que les cheveux commencent à repousser un petit peu aussi, donc on les prévient que la texture peut être différente, donc un peu plus fin, ou la coloration peut être différente. Mais le but, c'est de limiter l'arrivée du produit au niveau des extrémités, de protéger un peu le cuir chevelu, faire en sorte que cette alopécie soit pas irréversible. C'est pour ça qu'on conseille même quand on entend « mes cheveux vont tomber, donc ça ne sert à rien », si ça sert à quelque chose quand même. Et pour le coup, et favoriser la repousse après.
La perte de cheveux se produit parce que la chimiothérapie cible les cellules qui se développent rapidement. C'est le cas des follicules pileux, qui se retrouvent donc sensibles aux effets de certains traitements du cancer.
Moi, c'est Virginie, j'ai 39 ans et j'ai été diagnostiquée au mois d'août pour un cancer du sein.
Est-ce que vous pouvez me dire comment étaient vos cheveux ?
Avant ?
Oui.
J'avais des cheveux. Non, ils étaient raides, de type classique, quoi. Pas trop fins, pas trop épais, voilà. Colorés. Coloré parce que j'avais des cheveux blancs, donc voilà. Ils sont tombés très vite. 15 jours après le début du traitement, j'attends mes nouveaux. Et du coup, moi j'ai fait le choix avant qu'ils tombent complètement de les raser. Comme ça au moins, j'avais pas de surprise. Je me suis beaucoup posé la question avant de les perdre, de est-ce que je mettrais la perruque, est-ce que je couvrerais ma tête ou pas. Votre tête, du coup, sans cheveux est forcément... associé à une tête de malade. C'était surtout, est-ce qu'on va assumer cette nouvelle image qu'on dégage en société ou pas. Et du coup, moi, finalement, je mets pas la prothèse. Moi, je la mets de temps en temps parce que j'ai un travail où j'ai pas forcément envie d'expliquer tout le temps pourquoi j'ai plus de cheveux. Mais à la finalité, dans ma sphère personnelle et avec la famille et les amis, même tous les jours au quotidien, je la mets pas, quoi. J'ai des enfants qui sont des adolescents, donc c'est pas évident. Les copains qui viennent à la maison, ta maman, elle a plus de cheveux. Non, elle a plus de cheveux. Le travail, parce que je suis responsable achat, donc je rencontre des clients, je suis dans le bâtiment, donc j'ai des bureaux d'études, j'ai tout un tas de choses. Donc du coup, faut assumer l'image. Et il y a des gens que je rencontre pour la première fois et que j'accueille la tête nue. Et du coup, ils me posent toujours la question en fin de rendez-vous du qu'est-ce que vous avez, quoi. Moi, je l'assume, ma tête, donc ça va. Franchement, je mets très rarement la prothèse et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de porter, forcément. Et puis, quelque part, même si on essaye de choisir celle qui nous plaît le mieux, c'est pas nous, quoi. Autant laisser la tête nue. Au moins, c'est moi. Et finalement, je me tâte à laisser mes cheveux courts après. Ouais, bizarrement, je me dis que c'est pas plus mal aussi. Court avec genre juste 1 ou 2 centimètres, quoi. Ouais. Je verrai comment ça repousse, mais finalement, ça me va bien. Bon, l'avantage, c'est vrai que là, en termes de brushing et de lavage de cheveux, je vais très vite, hein. Je gagne un temps fou. Hein. Mais non, c'est pratique. Et puis parce que j'aime bien... et que mon entourage aussi me dit que ça me va bien, quoi. Donc je verrai comment il repousse, je verrai.
Donc j'ai 42 ans. Je suis traitée pour un cancer du sein métastatique. Donc, j'ai eu mon premier cancer il y a 6 ans. Puis, les traitements sont bien passés. J'ai eu une rémission de 3-4 ans. Et donc, malheureusement, il y a 2 ans, j'ai fait une rechute. Et donc, je suis repassée en chimiothérapie intraveineuse depuis quelques semaines, ici, à l'Institut Gustave Roussy, où j'ai toujours été traitée. Je suis une femme qui a des cheveux longs et bouclés. Donc là, vous voyez, je les ai attachés. C'est mes origines méditerranéennes. Je les ai détestés, je les ai aimés, détestés. Voilà, j'ai fait des brushings, j'ai fait des couleurs. Enfin voilà, je suis passée par plein de phases. Mais au final, je les aime, mes cheveux. Je les aime. Déjà, ça tient chaud. Non, c'est important parce que ça représente notre identité. Et bien sûr, après, on prend du recul aussi, on essaye. Enfin, moi, j'essaye en me disant, mais il n'y a pas que ça. Et ces médicaments qu'on prend et qui nous font perdre nos cheveux, c'est aussi des médicaments qui nous guérissent, qui sont là pour nous guérir et nous faire vivre le plus longtemps possible. Il y a 6 ans, j'ai perdu tous mes cheveux, déjà. Donc, c'était des chimiothérapies très fortes, le protocole classique dans le cancer du sein. La majorité des femmes perdent leurs cheveux. Et puis, les traitements que j'ai reçus auparavant, depuis ma rechute, ne faisaient pas tomber les cheveux ou alors les affiner un petit peu. Donc, j'ai dû les couper, les attacher. Mais malheureusement, avec le Taxol, c'est la chimiothérapie que je reçois, je les repère à nouveau. Donc, j'ai mis le casque, mais chez certaines femmes, apparemment, ça marche très bien. Malheureusement, moi, c'est depuis cette semaine, je les perds par touffe. J'ai déjà commandé ma perruque. Je sais que je repasse donc par la case sans cheveux. Et c'est une des épreuves les plus douloureuses pour beaucoup de femmes qui traversent cette maladie. C'est la perte de leurs cheveux. Je ne sais pas comment m'expliquer encore. Hein. Malgré les échanges avec ma psy et tout, je n'ai toujours pas compris pourquoi, il y a 6 ans, ça ne m'a rien fait. Mais je pense que je le vivrai peut-être différemment. Cette fois-ci, ça m'embête plus. Je m'étais dit que je les perdrais juste une fois dans ma vie, que c'est pas grave, ça repousse, comme disent beaucoup souvent les gens. Mais cette fois-ci, c'est différent, parce que c'est une rechute, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, que je sais pas combien de temps je vais devoir prendre des traitements qui, finalement, fragilisent souvent les cheveux. C'est plus l'inconnu, alors qu'il y a 6 ans... bien sûr, le ciel nous tombe sur la tête à l'annonce d'un cancer, mais on rentre dans un protocole bien défini, on sait qu'on en a pour 9 mois, et après, on est dans l'espoir d'une rémission et d'une guérison. Dans une rechute, dans un cancer du sein métastatique, les choses sont différentes. On voit vraiment, on appréhende la vie de manière très différente. Mon mari, par exemple, ne m'a jamais vue, peut-être une fois très furtivement. Non, mes enfants ne voient pas. Parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai eu une tante qui a eu un cancer du sein. Et je me souviens très bien de son crâne, de tout ça. Ça m'avait beaucoup choquée. Donc c'est quelque chose que je ne veux pas faire vivre à mes enfants. Il n'y a que ma cousine, dont je suis très très proche, qui m'a vue en crâne d'œuf. Voilà. Mais sinon, non, je ne le montre pas. Je ne le montre pas. C'est vraiment quelque chose qui m'appartient. C'est mon intimité très profonde. On se sent nu aussi. C'est une sorte de nudité que j'arrive pas à expliquer, qui est différente de la nudité qu'on connaît plus, mais on est vulnérable en fait. On est très vulnérable. J'aimerais beaucoup une perruque, chose que j'avais pas faite il y a 6 ans, mais j'aimerais beaucoup une perruque avec des cheveux naturels, longue. Celle d'il y a 6 ans, donc je l'ai donnée à une association. C'était synthétique et plus courte. Je pouvais plus l'avoir en peinture à la fin.
J'ai fait un SMS, mais... Oui.
J'aimerais une perruque en cheveux naturels, longue, mais c'est un budget aussi. Et par rapport à ça, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne peuvent pas se permettre ce genre de perruque. Il y a quand même une inégalité aussi dans cette maladie et par rapport à tous les soins qu'on fait à côté, qui ne sont pas forcément pris en charge, pour lesquels vous devez rajouter de votre poche. Donc quand vous avez les moyens, voilà, c'est très bien, mais pour les femmes qui n'ont pas les moyens, c'est plus compliqué. Moi, le budget global d'une perruque avec des cheveux naturels, c'est dans les 1000 euros. C'est ça. Ouais. Donc oui, je ferai cet effort-là. Parce que j'ai la chance d'avoir les moyens.
Bonne journée, au revoir.
Bonjour.
Je m'appelle Camille Rose. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis à Gustave Roussy. En fait, avant, j'étais coiffeuse dans une chaîne.
voulez que je vous aide là pour
Donc, je suis venue pendant 2 mois tous les lundis, mes jours de repos, pour voir comment ça se passait. Puis j'ai fait du forcing et on a fini par m'embaucher. Depuis, je suis là et je suis très, très heureuse de travailler ici.
Voilà, j'ai été donner la perruque à une dame ce matin. Donc, voilà.
On est une société extérieure. Donc, moi, je suis responsable du salon. Mais après, j'ai un responsable qui gère ça de loin. Voilà, tout ce qui est le côté administratif, compta. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me décrire vos cheveux ?
Oh là là ! Alors là, c'est... Alors là, pour le coup, c'est un peu compliqué parce que moi, de base, j'ai une alopécie androgénétique. Donc, grossièrement, c'est la calvitie féminine. Donc, en plus de par le métier que je fais... Ça a été compliqué pendant des années parce que j'étais focalisée là-dessus. J'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé parce que travaillant ici, j'avais du mal à prendre du recul et à me dire, mais j'avais presque honte de me dire, attends, toi, t'es pas bien, presque tu vas pleurer. Moi, je me réveillais la nuit pour examiner mon cuir chevelu. Donc, c'était vraiment, c'était devenu ancré, quoi. Et j'ai fait un début de dépression, hein, je l'assume aujourd'hui, mais vraiment, c'était très ancré. Et en fait, c'était encore pire quand je recevais les patients ici. En fait, j'avais honte de me comparer à eux. Et puis bon, après, j'ai fait un travail sur moi-même, ça allait mieux petit à petit. Mais ouais. Et donc, je fais un gros travail sur moi, j'ai fait des traitements et aujourd'hui ça va, mais on peut pas dire que j'affectionne mes cheveux.
Vous pouvez me les décrire ?
Les décrire, ils sont assez fins, un peu souples, un peu moussus, moi je dis. Et voilà. Donc ça, c'est une perruque, par exemple, classe 1. Donc en fait, en général, pour les perruques, il y a 2 catégories de perruques. Donc il y a une première catégorie, la classe 1. Je parle en synthétique, là. Donc qui est à 350 euros et intégralement remboursée par la Sécurité sociale. Et après, on rentre dans la classe 2. Tac. Où là, ça va à peu près de 400 et quelques jusqu'à 700 euros maximum. Là, c'est remboursé 250 euros par la Sécurité sociale. Et après, c'est la mutuelle qui intervient. La différence entre les deux classes, ça va pas être au niveau vraiment visuel. La fibre synthétique reste exactement la même. Ça va être au niveau du montage. Sur la première classe, on a un montage, c'est des trames, des bandes de cheveux cousues à la machine et un peu crêpées en racine pour qu'on ne voit pas l'implantation. Sur la classe 2... Ça va être monté sur un filet beaucoup plus fin où les cheveux sont implantés presque un par un sur une base complètement transparente sur le dessus pour que ça, on voit le cuir chevelu par transparence et que ça fasse vraiment très naturel, quoi. D'où la différence de prix. Après, quand on dépasse 700 euros, la Sécurité sociale ne rembourse plus parce que c'est considéré comme du cheveu naturel et je sais pas, c'est un luxe, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus remboursé. Donc voilà, et puis après ça va jusqu'à 3-4 000 euros hein, les cheveux naturels, c'est très 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 cher. Donc ce qui bloque de toute façon en général c'est au niveau du tarif, et nous ici sur Gustave Roussy c'est toujours un peu dur de proposer ces tarifs là. Personnellement je les propose pas. Après par contre je propose beaucoup du cheveu mélangé. Le cheveu mélangé c'est beaucoup plus abordable, on est entre 700 et 850 euros. Et donc là vous avez 70% de cheveux naturels et 30% de cheveux synthétiques mais de la fibre haute température, donc on peut quand même faire des brushing, la chauffer, etc. C'est quand même un bon rapport qualité-prix. Je trouve pas ça juste. Même pour les cheveux naturels, je trouve que, enfin, c'est pas un luxe aujourd'hui d'avoir une perruque, d'avoir une solution, parce que c'est vraiment une solution de secours. Je trouve que c'est normal qu'une femme puisse choisir ce qu'elle veut pour se sentir bien durant cette parenthèse difficile, quoi. Je vais vous montrer la différence avec du cheveu naturel, parce que là, j'en ai, il y a une dame qui en a acheté une que j'ai de côté. Donc là, le cheveu naturel. Donc là, sur celle-ci, on va être à 1650 euros. Donc là, elle est brute, hein, elle est dans la boîte. Après, on vient la recoiffer, lui donner la forme que la patiente veut. On la recoupe, on la broche, voilà. Et à l'intérieur, bah, c'est un peu comme l'autre, hein, la classe 2. Donc voilà, le fil est fin. Et après, sur le dessus, il y a la membrane qui fait que Ça imite le cuir chevelu. Et après, bah, au niveau de la différence, c'est le toucher.
Ouais,
quoi.
Ça se sent quand même.
Bah, oui. Bah oui, oui. Au niveau du toucher, c'est plus doux, forcément.
Et puis donc là, c'est des cheveux longs.
Oui.
Bah, toi, ouais. Vous allez les couper ?
Non, la dame, elle veut garder la longueur. Donc moi, j'accompagne les femmes à trouver la perruque qui va correspondre au plus près de ce qu'elles ont déjà. Donc on choisit, on fait un deuxième essai, elles repartent avec la perruque. Quand le cheveu commence à tomber, on fait ce qu'on appelle l'adaptation. Donc on rase le cheveu. Quand il a commencé à tomber, on fait un petit shampoing avec un massage, on vient mettre de la crème et on explique comment bien mettre la perruque à la personne et on vient faire des retouches coupe s'il y a besoin d'harmoniser la coupe, de faire une personnalisation, quoi. Après, qu'est-ce que je fais d'autre ici ? Je fais les coupes de repousse. Quand le cheveu commence à repousser après chimiothérapie, c'est un peu disproportionné au niveau de la coupe, c'est pas très harmonieux. Le cheveu, quand il repousse, il est un peu fin, un peu laineux, il est bouclé parce que le cheveu est imbibé de chimio, donc il a pas la texture qu'il avait avant. Je viens recouper de manière à ce que ça soit un petit peu plus harmonieux quand ça pousse, quoi. Et puis après, je suis censée ne plus les revoir, et c'est très bien. Donc voilà.
Bonjour.
Excusez-moi.
Je vous en prie.
Vous êtes en pleine interview.
Il n'y a pas de souci.
Je voulais juste voir pour acheter
des turbans. D'accord. Oui. Ok. Vous pouvez regarder dans toutes les panières.
Oui. J'en avais acheté un beau, je l'ai perdu.
Ah mince.
Ouais.
Un comment?
Avec le turban.
Ah, tout ce qui se noue. Tout ce qui se noue, ça va être dans ces panières-là.
Ouais.
Il était comment?
Ah, oh, il était magnifique.
Il était fin ou plutôt épais?
Non, il était fin. Il avait une boucle argentée où on faisait passer
oui,
le turban.
Oui, je
dedans.
Vois. Mais je crois qu'il m'en reste, mais un rouge.
Rouge.
Aujourd'hui, les femmes acceptent plus déjà le fait d'avoir un cancer et de perdre leurs cheveux. On va dire que ça a un côté un peu moins tabou. Et puis, c'est un peu la mode du turban aussi. On en voit quand même vachement plus. Même des femmes qui ont des cheveux, elles mettent des turbans.
Et ben, en fait, un peu le même système. Vous avez un bonnet, là, qui est oui. Le pan est détachable avec des pressions, et vous pouvez faire le tour.
Et donc, voilà. Et puis, on a beau dire ce qu'on veut, les perruques, même si elles sont très fines, que c'est très léger, ça reste quand même un corps étranger, voilà. Et pour que ça reste le plus naturel possible, il faut que le bonnet soit transparent, etc. Enfin, un turban, ça reste toujours plus confortable, quoi.
Parce que j'ai acheté le bleu, et je me souviens, avec mon fils, quand je l'avais essayé, le bleu, il me dit « Ah, maman, on dirait la laitière, là. »
Par oui. contre, la perruque, vous la mettez pas.
Impossible. Ouais. Elle est trop grande pour moi.
Donc, puis voilà, il y a des femmes même qui acceptent de rien porter du tout, de rester le crâne nu, et c'est OK. Hein.
Impossible, j'arrive
pas. Et je vous avais donné un bandeau antidérapant ou pas ?
Ben non, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore des cheveux. Ah. Mais là, j'en ai plus.
Et est-ce que vous voulez que je vous en donne un ?
Pourquoi pas ?
Ouais, non, non, si vous voulez essayer de la porter, là, ouais. Ça tiendra bien, là.
Ouais, je veux bien.
Ça tirera pas sur les cheveux, en tout cas.
D'accord. Bah, j'en ai plus alors.
La demande première, quand elles viennent, c'est... Ah, moi, je vous préviens, je veux pas de cheveux synthétiques. Parce que vraiment, elles ont l'impression que ça va se voir à 2 km, que ça va être vraiment moche. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu énormément d'évolutions sur la fibre capillaire et ça se rapproche beaucoup, beaucoup du cheveu naturel. Donc après, une fois avoir essayé le cheveu synthétique, en général, elles se disent « Oh non, mais en fait, ça va, c'est bien. » Voilà.
Madame Carpio, ça va ?
Oui,
ça va. Est-ce que vous voulez réessayer la chevelure ? Cette dame-là, elle vient pour un deuxième essai, pour essayer la perruque et puis repartir avec. Vous en êtes où dans le traitement ?
Ah.
Vous avez fait combien de séances de chimiothérapie ? Là, il vous en reste encore combien, vous savez ?
Ah, mais il reste à beaucoup. Hein.
Il en reste beaucoup. Si vous voulez, on peut enlever les tout petits cheveux qui restent là. Comme ça, vous pourrez bien hydrater votre cuir chevelu, mettre de la crème.
D'accord.
On fait ça ?
Oui.
Ok.
Alors, allez-y.
Si jamais ça vous démange la perruque, même en mettant de la crème tous les jours, on a des petits bonnets en fibre de bambou qu'on vient mettre sous la perruque pour que vous puissiez la supporter. Donc, on va réessayer la perruque en attendant. Ils ont fini dans 10 minutes. Vous avez un rendez-vous médical là après ou vous rentrez ?
Non, j'avais rendez-vous à 13h pour me faire les examens.
Oh ben, on est dans les temps, c'est bon.
D'accord.
Alors. Alors, est-ce qu'elle vous plaît toujours ? Ça fait drôle, en fait, ça fait drôle de se revoir avec des cheveux, quoi. Bah oui. L'œil s'habitue très vite à un... Bah voilà, c'est une nouvelle image, donc c'est difficile de se revoir avec autant de cheveux, peut-être.
Oui.
Ouais. Est-ce que vous voulez enlever le masque au moins pour qu'on voit ce que ça donne ? Ça arriverait mieux à visualiser, quand même.
Oui, c'est mieux.
Bah oui, ça vous va bien. Moi, je trouve que c'est une coupe qui est douce, qui va bien avec votre visage. Vous avez un visage fin. C'est ni trop court, ni trop long.
Et la couleur aussi, c'est...
Oui, c'est doux. Bon. Moi, je trouve que ça vous va bien.
Oui. Oui, oui.
Alors, le maître. Tu sais quoi? Tiens la pointe. Tac. On est bien à 70 cm hein, jusqu'à ton crâne. Donc, tu vois, minimum, il faut que tu m'en donnes 12. Moi, je dis on coupe jusqu'à 30, on coupe là.
Je donne 30 sur.
On te donne 30 sur. Ça te va?
Ça me va.
Allez.
Donc, une petite tresse.
Tout ça, ça va atterrir chez Faker Don't Care, une association qui donc récupère des cheveux de femmes et d'hommes, et des cheveux assez longs, pour faire des perruques, des postiches. L'idée, c'est de créer un peu un cercle vertueux. Et cette matière du cheveu, de ne pas la laisser vaine. Et surtout pour toi, ça a été 6 ans de pouce. Imagine ce que ça va représenter pour quelqu'un qui n'a plus de cheveux. Faker Don't Care, ce qui est super, c'est que c'est une asso. Le but, c'est d'aider les gens et de les accompagner. Donc, des perruques, on sait que ça peut coûter très cher, et encore plus quand c'est des perruques en cheveux naturels. Là, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire des produits, mais qui sont du coup abordables. Des personnes qui ont des moyens un peu moins importants puissent quand même s'offrir une perruque, puissent avoir accès à des cheveux naturels, mais sans en avoir pour 3000 euros. Au moins 3000 euros.
Je le prends comment? Comme ça?
Ouais. Ça, le petit bidule, là, c'est pour poser ton doigt. On s'en fout.
Celui-là?
Des ciseaux.
Je coupe?
Ouais.
Ici?
Voilà.
Les cheveux en 4. Épisode 4. La grande perte. Une série documentaire de Claudia Prolongeau, réalisée par Clémence Grosse. Avec les enfants de l'école élémentaire Léonard de Vinci à Nogent-sur-Marne, le laboratoire de police scientifique de Paris, Pascal Régagne, Sylviane Bertolus, Sarah, Isabelle, Daniel, Virginie, Rima, Ambre Dupont et Camille Rose. Merci à Élise Aignon, à Gradiella Bianzani et au laboratoire de police scientifique de Paris, à Claire Parizel, au personnel et aux patients de l'hôpital Gustave Roussy et à Jeanne Boézek. Prise de son, Christophe Michou, Alexandre James, Guillaume Ledu, Geoffrey Marianne, Yvan Turc. Mixage, Guillaume Ledu. Documentation, Annelise Signoret. Documentation musicale, Marion Guilhem et Antoine Vuilloz. Archivina, Emmanuel Luccioni. Coordination, Johanna Bedeau. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.